France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Parfois, nous revenons sur les lieux de découverte passée. Et dans le Loiret, nous allons faire plusieurs stops cette semaine. Nous allons nous arrêter chez Pierre, jeune coutelier forgeron installé à Champ de Coq. 5 ans plus tard, après notre premier passage, Pierre est toujours attaché à la forge qu'il avait créée pour s'orienter de plus en plus franchement vers la coutellerie de cuisine française. Il nous attend au bout du fil. Et puis pour prendre du recul sur notre époque agitée et nous préparer à vivre cette nouvelle année avec plus de sagesse et de quiétude, nous nous rendrons dans le studio musical de Laure, en Lozère, compositrice et violoniste, où se prépare une application de musique méditative.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Pierre Lebrun, bonjour.
Bonjour.
On revient à votre forge, la forge de Pierre. Vous êtes installé coutelier forgeron à Champ de Coq et on avait parlé de vous en 2016. C'était 2 ans après l'ouverture de votre forge. En fait, vous n'étiez pas du tout parti vers le métier de coutelier.
Non, j'étais pas du tout parti vers le métier de coutelier. J'ai fait un bac littéraire. Après, j'ai fait une formation en gestion forestière. Et puis c'est tombé un peu comme ça. Je pense que ça couvait depuis que j'étais tout petit. Et puis ça s'est mis en place d'un coup, un peu comme une révélation. Je me suis dit, tiens, si j'essayais d'en fabriquer un. Et puis après, bon bah voilà, ça a continué quoi.
À partir d'une barre d'acier achetée à Thiers.
Oui, c'est ça. Ouais, j'avais commandé ça. J'étais dans mon petit appartement. J'ai limé pendant une semaine.
Mais après, est-ce qu'on se forme? Il y a des écoles pour cela ou on est autodidacte?
Alors il y a des écoles en France en coutellerie. Moi, j'ai fait le choix de pas faire d'école de coutellerie à proprement parler. J'ai fait un CAP de ferronnerie d'art qui m'a permis d'avoir des bases de forge et puis des bases en mécanique et en fabrication, un peu tout ce qui est soudure, meulage, etc. Ça m'a bien aidé dans mon atelier aussi pour remettre en route des machines anciennes. Mais il y a une formation à Thiers, je crois, oui, un CAP de coutellerie, oui. Mais où ils n'abordent pas la forge.
Votre première source d'inspiration sont les couteaux de cuisine française des années 1850-1930.
Oui, complètement. La petite histoire, c'est qu'en fait, j'habite une maison, donc c'est la maison de ma femme, et dans cette maison, c'était la maison de son grand-père. Il y avait un grand couteau de cuisine qui datait de l'époque du grand-père et même peut-être de l'arrière-grand-père. Et donc je me suis renseigné et c'est là que j'ai compris que, d'une part ces couteaux étaient extrêmement efficaces, étaient recherchés aussi par les cuisiniers, et puis d'autre part qu'il y avait vraiment une façon de les fabriquer qui n'était pas du tout celle qu'on a aujourd'hui en coutellerie plus moderne. Donc ce couteau a été un peu un déclic, un deuxième déclic en fait plus précis dans mon activité.
Et un couteau de cuisine traditionnel, selon ses vieux principes, ses bons principes, nécessite combien d'heures de travail?
Alors c'est très variable en fait. Ça va dépendre déjà du modèle, puisque vous avez plusieurs types de couteaux de cuisine. Les couteaux d'office qui sont des petits couteaux qui sont destinés à éplucher. Vous avez les couteaux plutôt de taille moyenne, trancheurs, filets de sol, qui sont pas forcément beaucoup plus grands que l'office, qui vont rarement aller à plus de 20 cm, 22 cm. Puis après, vous avez les émasseurs et les chefs, qui sont eux beaucoup plus grands, avec des lames beaucoup plus hautes, beaucoup plus larges. Donc on peut aller de une journée à plusieurs jours. Ça va dépendre aussi de l'acier, du bois, ça va dépendre aussi du bonhomme qui le fabrique, et de son efficacité. Enfin voilà, c'est très variable. Mais globalement, ça doit pas mettre plus d'une journée ou deux. Hein. Normalement, si on travaille bien, en 2 jours, le couteau doit être parfait, avec les bonnes méthodes, et même beaucoup moins que ça, si c'est des couteaux beaucoup plus petits. Et puis après, on peut les fabriquer en série aussi, en petite série, pour simplifier un peu le procédé. Donc voilà, c'est difficile de donner un temps précis.
Alors s'il y a des sources d'inspiration, il y a aussi des sources de documentation et à la BNF, vous avez trouvé le livre de l'art du coutelier écrit par Jean-Jacques Perret, maître coutelier sous Louis XV.
Oui, ça me fait plaisir que vous en parliez. En fait, c'était vraiment un déclic. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé ce couteau dans la cuisine et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de fabriquer le même et puis j'ai pas trouvé tout seul, quoi. Et je me suis fait aider. Ça a pas été facile. Et donc, j'ai un ami, Bertrand Ponce, à Bordeaux, qui était rémouleur à l'abattoir et qui est encore rémouleur aujourd'hui, qui a accumulé une énorme connaissance de la coutellerie traditionnelle française, qui m'a donné des conseils et qui m'a dit, faut que tu lises ce livre quand même parce que ça t'aidera autant que ce que je te dis moi, si ce n'est plus. Tu vas mieux comprendre l'état d'esprit des couteliers de l'époque. Donc je suis allé sur le site de Gallica, ouais, la BNF, et puis j'ai téléchargé ce gros pavé et je l'ai dévoré parce qu'en fait c'était extrêmement intéressant de comprendre comment il est fabriqué,
ouais,
et de se rendre compte qu'en fait on ne pouvait pas arriver au résultat escompté sur ces couteaux si on les fabriquait pas de la même façon que les gens de l'époque, avec le même état d'esprit. Donc il a fallu chasser un peu de l'atelier pas mal de machines plus modernes, de changer d'état d'esprit pour vraiment se mettre dans le bain à 100% et réussir à faire des choses qui soient à peu près identiques tant sur la qualité de coupe que sur la forme, etc.
Donc Pierre utilise la bonne meule de pierre.
Exactement, j'ai une meule, alors aujourd'hui on n'a plus des meules en pierre, on a des meules en grès, enfin avant on avait des meules en grès, aujourd'hui on a des meules à base de ciment magnésien qui sont reconstituées, mais c'est exactement le même principe, oui. En fait, la seule différence entre Jean-Jacques Perret et moi, c'est l'électricité dans les ateliers et puis quelques petites évolutions comme ça qui se sont faites avant et après-guerre, mais le procédé et la façon de penser et même les aciers sont quasiment les mêmes en fait.
Et vous avez une signature?
Oui, j'ai un poinçon, ouais. Tous mes couteaux sont poinçonnés d'une hirondelle.
Et on peut trouver où les hirondelles de Pierre Lebrun?
Alors, j'ai plusieurs possibilités. De temps en temps, je fais des salons. Sinon, je vais beaucoup aussi vendre par Internet, sur commande ou sur mon site forgedepierre.fr, sur lequel il y a une petite boutique en ligne via un lien. Et puis, mais principalement sur commande, les gens me contactent, on discute d'un projet qu'ils ont pour un couteau en particulier. Et puis je les conseille, et en général ils vont faire un choix avec mon aide, ou alors pour des gens qui ont vraiment un besoin et ils connaissent déjà ce dont ils ont besoin, je vais leur proposer une gamme qui pourrait faire correspondre, voilà.
Alors le site c'est forgedepierre.fr, et merci Pierre de déguiser cette nouvelle année.
Merci à vous de m'avoir contacté.
France Inter, carnet de campagne.
Un long message envoyé par Christiane au nom de la coopérative de tourisme Les Oiseaux de Passage. Une coopérative pour voyager autrement, peut-on lire. Cet argument est partagé par d'autres initiatives de tourisme alternatif, mais je trouve le cas présent très convaincant au point de se vouloir être un antidote à Airbnb et à Booking. Alors voyons de plus près, je cite, pas d'économie prédatrice, de captation de la valeur créée par des producteurs de voyage, pas question de bonnes affaires, ni de donner des notes, ou de se laisser mener par un algorithme chargé de vous profiler pour optimiser les ventes. Alors que reste-t-il? Il reste d'abord des histoires mises en ligne dès que vous parvenez sur la page d'accueil du site. La coopérative est en effet une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, alimentée par les ressources de 80 communautés de professionnels qui proposent dans leur région une découverte, une activité culturelle, une visite de forêt, une production locale ou encore un carnet de voyage. Et c'est ainsi que les fondateurs de la coopérative entendent, je cite, « déconstruire le rapport entre voyage et argent ». Bien sûr, en allant plus loin dans votre recherche, vous aurez une carte de France qui vous proposera déjà 1,5 million d'offres de parcours d'hospitalité. Opérationnelle en France, cette application prépare à étendre sa couverture sur l'Europe. Il y en a pour tous les goûts. C'est à voir sur la page Facebook de cette coopérative un peu particulière. COP, les oiseaux de passage. Deuxième invité, Laure Chapler qui est avec nous. Laure, bonjour.
Bonjour Philippe.
Je suis ravi de vous parler enfin de vive voix parce que l'année dernière, le temps passe vite, enfin c'était au mois de décembre, j'avais évoqué votre programme d'Octave. Octave médite. Octave, c'est un sujet de méditation via la musique. Octave, alors c'est un programme ponctuel ou à suivre sur plusieurs jours, plusieurs semaines?
Alors Octave, c'est une application de méditation donc, et de musique en devenir, parce que nous sommes encore en train de la construire. Et donc en effet, en fait, il va y avoir différentes formules. Donc il y aura des séances, comme vous dites, à l'unité pour répondre à des besoins précis et urgents. Et il y aura également des programmes sur 7 jours pour approfondir certaines thématiques et approfondir l'expérience du sujet qu'on est en train de travailler.
Oui. Dans les notes et dans les harmonies, il y a des couleurs qui se dégagent, qui certaines, dit-on, ont un effet sur le fonctionnement du cerveau.
Absolument. Alors je dirais même que toutes ont un effet sur le cerveau. Et en fait, l'idée est vraiment de pouvoir choisir les bonnes, celles qui sont pertinentes pour avoir l'effet escompté. Donc c'est la raison pour laquelle moi, en tant que donc musicienne professionnelle, je suis violoniste et compositrice également, en fait j'ai vraiment à cœur d'utiliser la puissance du son et ce que ça va déclencher dans le corps. Et donc je mets une intention particulière dans toutes les musiques que j'écris et pour qu'elles soient vraiment en cohérence avec le thème de chaque méditation.
Et il existe déjà des disques, on va dire, c'est de la musique au maître, un bon synthétiseur, une bonne nappe de notes, et ça suffit largement pour sentir à un moment donné le corps se relâcher, se détendre en fermant les yeux. Quelle est la différence entre ce que vous proposez et ce type de marché banal?
La différence, c'est une différence que moi-même j'expérimente, qui est que en fait je ne ressens rien. Elles me sont complètement imperméables. J'ai l'impression d'avoir quelque chose de complètement aseptisé. Mais ça n'est que mon ressenti. Et là, la différence, c'est qu'il y a vraiment l'intention derrière d'un humain, d'un compositeur, qui, quand il va entendre un texte, donc là, en l'occurrence, c'est le texte d'Étienne, qu'il a enregistré, qu'il a écrit, moi, avec toute ma sensibilité, toutes mes connaissances des fréquences et des notes et de la musique et du son, etc., eh bien, je vais tâcher de mettre en musique ce qui va permettre à l'utilisateur de rentrer encore plus profondément dans le thème. Mmh. Par exemple, si jamais on a une séance de méditation sur comment bien s'endormir quand on a une journée avec énormément de stress, etc. Eh bien, mon idée va être de trouver une tonalité qui soit la plus adéquate pour générer ce type de relaxation dans ce type de configuration avec la rythmique qui pour moi est la plus cohérente, les enchaînements de notes, les intervalles qui sont les plus cohérents, et j'essaye aussi au maximum de n'utiliser que des instruments réels que j'enregistre pour vraiment à chaque fois garder l'authenticité de la fréquence sonore et de la particularité de chaque sonorité.
Laure, écoutez ma voix. Fermez les yeux, vos paupières sont de plus en plus lourdes. Non, je faisais un test pour voir si ça marchait, mais...
Non, mais j'ai failli
oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. L'application, comme vous le disiez, en cours de développement, sortie prévue ce printemps 2022. Et on peut déjà avoir un aperçu avec une première méditation.
Oui, tout à fait. C'est une méditation que l'on a mis en ligne l'été dernier, qui s'appelle « Apprendre à s'écouter ». Et donc qui est téléchargeable et qui est écoutable donc gratuitement et téléchargeable également, on l'a vraiment mise à disposition sur notre site, sur www.octavemedite.com. Voilà, qui pourra déjà donner un aperçu de notre univers et de notre travail.
Bon, pour bien commencer cette année 2022, chers amis, allons directement sur octavemedite.com pour garder un tout petit peu d'espoir, même se sentir prêt à affronter cette nouvelle année, peut-être avec plus de délicatesse, plus de poésie, plus de souplesse. Enfin, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite aussi, Laure. Merci beaucoup.
Merci à vous, infiniment.
On revient dans le Loiret avec François qui nous rappelle 2022, année Molière, les 400 ans de sa naissance. François qui connaît bien le cas Molière pour le jouer à travers deux créations et des actions culturelles et pédagogiques. Sa compagnie s'appelle Brouhaha et l'a vu le jour en 2019 dans le Loiret. Brouhaha se définit comme un agitateur de spectacle. Moi je dirais un empêcheur de tourner en rond aussi. D'ailleurs à propos de tourner, notre comédien, musicien et chanteur aime détourner les objets, en particulier ceux du jardinage, pour inventer un scapin au jardin, une sorte d'adaptation déjantée des textes de Molière et surtout de son esprit qui reçoit l'approbation du jeune public. Mais pour les autres, les plus âgés comme vous et moi, les créations proposent aussi une approche tout aussi décalée de Molière, mais en respectant évidemment le contenu, le fond, le texte. En parallèle, notre comédien a créé un label qui se consacre au management d'artistes français, dont sa pomme, puisqu'il est l'auteur d'un album qui s'appelle « Le soleil, ça s'apprend » et qui fait suite à une tragédie personnelle qu'il a combattue en chanson. Ça mérite vraiment d'être écouté. Le site, c'est compagniebrouhaha.com et les premières actions culturelles auront lieu à Vierzon le 22 janvier, 18 et 21 janvier, 22 janvier, salle Madeleine, Sologne. Voilà, puis il y a d'autres dates que vous trouverez sur le site.